Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Oui, alors, nous sommes le 24 décembre et vous êtes, tout comme moi, en train d'emballer le dernier roman de Christine Angot pour l'offrir à Tonton Raoul. Et vous ne pouvez pas le saquer, Tonton Raoul, car vous savez que dans quelques heures, il va se transformer en spécialiste de géopolitique après quelques bouteilles de vin rouge, car on le sait, Raoul a la main lourde. Et dans cette concurrence à Bernard Guetta en matière de géopolitique, tout va y passer. Des gilets jaunes à la Maison Blanche, en passant par sa préférence pour Miss Bourgogne, qui était quand même un peu plus, enfin un peu moins... que Miss Tahiti, enfin vous voyez quoi. Non, justement Raoul, on ne voit pas. Alors voilà, pour toutes ces raisons, lâchez ce maudit paquet et détendez-vous avec nous pendant l'heure qui vient.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui partage non pas les goûts de Raoul, mais une mission avec moi, celle de vous faire passer une pop-heure en notre compagnie, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
La robe de Maria Carré pour la radio, c'est pas un peu trop, non?
Vous dites ça parce que je suis boudinée?
Pas du tout. Au menu de ce pop-pop, nous vous proposons de réécouter un groupe qui est passé par la scène de pop-pop-pop. Mais oui, Boomcello, évidemment. Mais avant de les réécouter, comme c'est Noël, réécoutons-le, lui. J-C-V-D. Bonjour Jean-Claude Van Damme.
Comment ça va?
Ça va très bien. Mon cher Jean-Claude Van Damme, sachez qu'il existe ici une question qui m'obsède, une question qui me rend fou, une question que j'ai posée 222 fois et cette question c'est...
Alors pour vous c'est quoi la pop culture?
Ben la pop culture elle se trouve un peu partout, ça se trouve un peu dans mon enfance, dans mes films, dans tout ça... Par exemple, les gens... Bon, j'ai grandi avec du Brel et de la musique classique, mais par exemple, le Brel à 20 ans et le Brel à 30 ans ou le Brel à 40 ans, on le comprend différemment.
Bien sûr.
Donc déjà dans cette pop culture-là, il y a déjà une évolution de pensée due aux paroles de Monsieur Brel. Et puis t'as des musiques de films comme Laurence d'Arabie qui sont des musiques que t'as partagées avec ton père. Dans la grande salle de cinéma, que tu n'oublies pas. Donc, et puis, Léo Ferré, comme j'ai quand même eu une vie assez mouvementée, avec des hauts et des bas, je peux vraiment me
sentir lié.
Ces paroles formidables, qui sont simples, très simples, mais en vérité très vraies.
Avant de continuer de parler avec l'inimitable JCVD, on reste en Belgique avec la jeune Angèle, la future Madame Esvan, mais elle ne le sait pas, et le morceau « Jalousie ».
Jalousie. Nuance avec parano. De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Belle, quelle
Jalousie, c'est à retrouver sur l'album Brawl.
Vous êtes sûr du nom de famille ? Je suis pas sûr, moi.
Elle non plus. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui double un crocodile dans Kung Fu Panda. Mais qui est-il ? Réponse avec son pop portrait. Alors un pop portrait, ben oui, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous recevons The Muscles from Brussels, comme on le nomme outre-Atlantique, mais JCVD n'est pas qu'un corps, c'est aussi un verbe qu'il a particulier, il le concède volontiers. Et ces mêmes muscles précédemment cités n'appartiennent plus qu'au plat pays qui le sien, puisqu'il les a largement exportés au ciné, pour par exemple Kickboxer, pour Full Contact, pour Coup pour Coup, pour Double Impact, pour Universal Soldier, des comédies romantiques américaines, hein, comme les titres l'indiquent, ou encore Chasse à l'homme, pour les besoins duquel il fait venir John Woo aux États-Unis. Citons aussi les traitants Mort subite, Le grand tournoi, Risque maximum, Double Team, Légionnaire, Les hilarants, Point d'impact, In Hell et les ovniesques pour de vrai cette fois, Narco, JCVD et vous le citiez Antoine, Kung Fu Panda. Un action hero est dans le studio, Jean-Claude Wham Bam Van Damme, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, et dans Pop Up Up et il est carrément aware lui aussi.
Jean-Claude Van Damme, je sais que vous dormez 2 ou 3 heures par nuit, que le reste du temps, si vous ne tournez pas, vous occupez votre temps à vous intéresser à la biologie, à la sociologie, à la physique ou encore à la téléportation quantique, mais... Où est la pop culture dans tout ça ? Eh bien, passons à votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Et pour le livre, vous avez choisi Papillon, autobiographie d'Henri Charrière, qui raconte sa vie du temps où il était bagnard en Guyane française. C'est un livre qui a été vendu à 13 millions d'exemplaires dans le monde, adapté en 73 au cinéma par Franklin G. Schaffner, avec Steve McQueen dans le rôle-titre. Écoutons un extrait de la bande-annonce.
After 5 years as an international bestseller, it comes to the screen. Unquestionably, the greatest adventure of escape ever filmed. Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon.
C'est le thème de l'évasion qui vous plaît tellement?
Non,
dans l'histoire de Papillon.
Le thème de la liberté, l'amour qu'on a pour la liberté. Même puni, dû à la société ou des règles justes ou injustes, chaque être humain veut retrouver cette liberté. Et never give up, ne jamais
se résigner.
Se résigner pour ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça a été très très bien interprété. Seulement quand le bouquin commence, le film finit. Le bouquin est énorme et j'ai pu le lire... En une nuit, moi qui n'étais pas un garçon, tu sais, très dans les bouquins, c'est mon père qui m'a dit, lis-le, ça va te plaire. Et il y a ça, il y a aussi Cro-Blanc, White Fangs, de Jack London.
Bien, alors Papillon, pour la chanson, vous avez opté pour Avec le temps, une chanson de 1971, signée Léo Ferré, dont vous parliez tout à l'heure. Extrait.
Avec le temps, va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'attalent de ses gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
Bien
Quelle
sûr.
Parole, hein.
Ben oui.
C'est incroyable.
Mais tout le monde a l'image de Jean-Claude Van Damme qui distribue des bourre-pifs comme ça à tire-larigot, mais il y a un petit cœur sensible qui bat là-dessous.
C'est un peu un Vermeer de la peinture. Donc on a tous ces Bruegel, tous ces... Mais c'était un peu un maître de la poésie. Mais évidemment, Jacques Brel est formidable. Aznavour a un style beaucoup plus épique et beaucoup plus grand. Donc c'est, j'ai grandi avec ces gens-là comme Aznavour, Brel, même Moustaki, Gilbert Bécaud, Michel Sardou. C'était mon époque. Et comme j'ai passé une vingtaine d'années en France, à Menton pour les vacances, évidemment par la vieille route et la petite Fiat de mon père, ça prenait 20 heures. Donc j'écoutais les musiques avec la Côte d'Azur et tu sais, on partait la nuit très tôt pour ne pas être chaud. Et puis on arrivait, à l'époque il n'y avait pas d'air conditionné. Et à l'époque, puis on arrivait la journée avec la musique Aznavour et tout, c'est super.
C'est une chanson très très émouvante hein, avec le temps. Ça, ça vous arrive de verser une petite larme en l'écoutant? Je sais que vous pleurez en écoutant de la musique, il vous arrive de pleurer.
Oui, of course, évidemment, parce que les émotions sont... Au fond, on est fait de cette émotion principale. On appelle the grief, c'est-à-dire la the grief quand on regrette quelque chose, the anger quand on est fâché, et puis on passe à la sadness, la tristesse, et puis on passe à la jalousie, l'envie, la peur et l'amour. Et c'est cet niveau.
L'émotion.
C'est les c'est émotions, c'est vraiment les émotions qui nous entourent. Il faut pouvoir les faire face en sachant qu'elles existent et essayer, je vais pas dire d'aimer, mais essayer dans un certain sens d'apprécier la chute. Et qu'est-ce qui se passe dans la chute? Que si on remonte, on sait comment dealer avec des gens qui sont tombés dedans.
Mais là, vous avez choisi avec le temps. Vous êtes nostalgique de manière générale?
Énormément nostalgique. Trop. Mais c'est bien parce que ça vient un peu du côté européen. Moi, ce que j'adore, c'est que les stars françaises, elles seront toujours respectées, comme un Belmondo dans un restaurant, Monsieur Belmondo. Ouais. Tandis que dans certains pays, on travaille seulement au box-office.
Ça tombe bien que vous parliez de Belmondo, parce que pour le film, vous avez choisi Le Magnifique de Philippe de Broca, sorti en 73, avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr, et Jacqueline Bisset. L'histoire d'un modeste écrivain qui tente d'achever le dernier épisode des extraordinaires aventures du héros qu'il a créé, celui d'un agent secret invincible, en prêtant à ses personnages les traits de ceux qu'il côtoie dans la réalité. Petit extrait.
Pour vous, mon enfant, Tumel, saké, toqué, alcool de goyave, papaye fermentée.
Une larme de saké.
Non ! Je vais te faire l'amour, petite fille.
Oh ! Tac, tac, badaboum, passion Belmondo, Jean-Claude Van Damme.
Mais attention, Monsieur Belmondo était un grand acteur de théâtre. Oui. Donc il avait cette... il était très theatrical dans ses mouvements. Et en plus, il était très vivace. C'était un rapide et il était athlétique. Donc c'était un peu mon héros d'enfance avec Bruce Lee. Ouais. Et puis tu grandis et tu commences à t'intéresser à des gens comme Jean Gabin, Bernard Blier. Tu vois, tu t'intéresses à des dialogues de, enfin, Michel Audiard, qu'il y en a aussi. Mais je veux dire que avec l'âge, tu t'intéresses à des choses, tu t'évolues. Mais toujours Belmondo. Très très grand respect. Hein.
Et Belmondo qui est par ailleurs très fan de boxe. Je l'ai croisé il y a encore un mois à une rencontre, il adore ça.
Ah ouais, super. Mais ça, je savais.
Pour la série, vous avez choisi Narcos, une série créée par Carlo Bernard et Doug Miro et diffusée sur Netflix depuis 2015 et qui retrace la lutte acharnée des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellín. Bande-annonce.
Imaginez que vous veniez d'une famille pauvre, dans un pays pauvre, et qu'à 28 ans, vous ayez tellement d'argent que vous puissiez même plus le compter.
Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes eligen plata o plomo.
S'il y a une chose que j'ai apprise dans le monde des narcos, c'est que la vie est plus compliquée que ce qu'on croit.
C'est un personnage à la Escobar qui vous séduit ?
Tout à fait. Ouais. Il a pris le rôle d'une personne colombienne, mais vraiment d'une manière très, très lui. Très réel. Et tu sais, parfois, quand t'as des acteurs, il est connu, mais pas trop connu, ils font peur à l'écran. C'est-à-dire que si tu as y a un Pacino qui va jouer un Narcos ou un Métaphore, on sait ce qui va se passer dans un sens. Quand un personnage vient assez frais à l'écran, tu ne sais pas ce qu'il est, ce qui fait donc le public un peu plus peur. Si le script est bien corsé avec des bons acteurs, C'est un film un peu documentaire, plus que film avec des stars, tu vois. Et alors, Madame Iris Boucher a fait un très bon travail.
Alors, moi, j'aime beaucoup Narcos, Jean-Claude Van Damme, mais j'avoue, je confesse une petite déception, je pensais que vous alliez choisir ça.
Can you beat up that guy?
Sure.
This is so wild. You know, I gotta admit, I was kind of surprised that you agreed to go on a blind date.
Normally, I would not do it.
Yeah. Well, what made you make the exception for me?
Because Rachel told me you were dying to have a threesome with me and Drew Barrymore. But by the way, Drew has some ground rules.
C'était donc un épisode de Friends dans lequel vous jouiez The Muscles from Brussels, soit votre propre rôle en fait, et vous aviez cette scène avec Monica vous aviez oublié parce que j'ai vu à votre tête pendant l'extrait.
Mais ce qui s'est passé, moi je ne connais, je suis vraiment un, pourquoi c'est le Van Damme, hein. Je suis à la maison, je m'entraîne, je fais du sport, donc je ne regarde pas trop la TV, mais c'était déjà à l'époque, c'était un énorme hit.
Succès, ouais.
Voilà, et puis je vois ces deux filles, deux belles filles, et puis ils sont supposés me donner un petit bisou. Donc moi, je fais, tu sais, je fais le bisou normal, et puis eux, ils... The drilling, c'était, j'étais étonné. Et puis je me suis rendu compte que ces deux filles, je dis, ben zut alors, j'aurais dû faire un plus beau baiser, un baiser un peu plus long. Mais quand je dis ça, c'est pour rigoler, hein.
Bon, et puis, c'est Jennifer Aniston en même temps.
Jennifer Aniston. Elle était belle. Ouais. Et aussi.
Courtney Cox.
Oui.
La seule qu'on vient d'entendre, c'est Courtney Cox.
Et super sympa en plus.
Et pour finir cette pop-list, Jean-Claude Van Damme, vous n'avez pas choisi de jeu vidéo alors que vous avez joué dans Street Fighter et Mortal Kombat. Paradoxe.
Ouais, c'est incroyable parce que ce film Bloodsport a vraiment créé ces jeux vidéo comme Mortal Kombat et Street Fighter. Et on aurait quand même pu faire un deal pour la vidéo. Hein.
Ben oui, vous auriez dû.
Bon. Mais c'est pas grave, on a commencé quelque chose de super et puis c'est bien quoi.
Alors je résume Papillon, Léo Ferré, le magnifique Narcos. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Imaginez que vous veniez d'une famille pauvre.
Et pour vous, mon enfant.
Et qu'à 28 ans, vous ayez tellement d'argent que vous puissiez même plus le compter.
Steve McQueen.
Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Dustin Hoffman.
Tu mets saké, toqué, alcool de goyave.
À la galerie, je farfouille.
Plata.
Dans les rayons de la mort.
Au plomb.
Samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
Vous vous y retrouvez, Jean-Claude, dans ce petit mash-up de vos préférences?
Pas trop, mais quand Léo Ferré il chante, il mange tout. Hein? Trois paroles et c'est fini.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
À suivre dans Pop, 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 une battle d'imitation entre la voix française de la souris de Stuart Little et la voix belge qui double le personnage du crocodile de Kung Fu Panda.
Moi, je suis Stuart Little. Dis-moi, c'est cool une vie de crocodile?
J'ai pas beaucoup de dents, alors maintenant je sais plus manger les petites souris.
Mais avant ça, on écoute une autre pépite belge, ça gaz pour moi de Plastichka.
Je travaille pas, ik ben altijd fatigué. Je suis slap comme une savate, je vais chômer, c'est plus gay. Et je suis quand même payé, ça c'est du spec pour mon bec. Moi je suis le mec. Tu trimes comme un souquelaire, il faut être zot, faut être cinglé. Moi je dors comme une merbotte la journée. Puis je vais jouer au pitcher's back et boire ma jatte. Après je suis zot. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Moi. Au chômage, je me ménage, pas sur ménage. Je suis peinard et pas une poire. Faut pas croire, bon c'est trimé, fatigant. Ik ben le king van de lyrique. Je trouve que ça fait chic. Ik ben le king van de lyrique. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi. Moi. Ça gaffe pour moi. Faut aller style que zone. suis au kerme quand on me voit.
C'était en 78 que Plastiche chantait Ça gasse pour moi, et restons en Belgique justement dans Pop 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 sur France Inter avec JCVD.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Jean-Claude Van Damme, vous venez nous présenter Lucas, le cinquième long métrage de Julien Leclerc. Et dans ce film, Lucas, c'est vous, un ancien garde du corps qui enchaîne les petits boulots de videur de boîte de nuit pour élever sa fille de 8 ans. Et vous vous retrouvez contraint de collaborer avec la police. Votre mission, infiltrer l'organisation d'un dangereux chef de gang flamand. Bande annonce.
On veut savoir qui tu es. Personne ne te connaît.
La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Ce que je veux, c'est que tu bosses pour moi.
C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Tu commences vendredi.
Jean-Claude Van Damme, on vous demande à un moment dans le film d'où vous venez. Vous répondez « from here ». Ça vous a fait quoi de tourner chez vous en Belgique ? Vous avez eu l'impression de revenir à un cinéma de taille plus humaine ?
Oui, numéro un, totally correct. Et la seconde chose, tu sais, tourner sur les pavements du sablon, aller voir un antiquaire, puis tourner dans la campagne flamande. J'ai grandi là-bas avec une équipe, une bonne équipe française et belge. On a fait un film style, qu'on appelle ça aux États-Unis, Guerrilla Unit, which means, il n'y a pas 250 personnes, il y a 30-40 personnes, il y a l'esprit de famille, mais c'était en Belgique. C'était un mix entre les Belges. C'était un Français qui dit « Donne-moi la caméra, s'il te plaît. »« Hey, caméra for him, for France. » Et c'était super, cet esprit. On a fait un très très bon travail. Mais les gens étaient de qualité.
Votre personnage de Lucas est un homme mystérieux, touchant, partagé entre l'action et l'émotion. Et on a l'impression que cet homme-là, il est très proche de vous. Que c'est pas tant que ça un rôle de composition.
Oui, c'est un homme timide, il montre pas
ses sentiments,
sa force si facilement, et puis quand il déborde, il déborde, et il a un cœur pour sa fille, il a un cœur pour les gens, il a un cœur pour... C'est un mec qui va encaisser, quoi. Et je crois que les gens pourront s'identifier à lui, vu que la manière dont ça a été tourné avec une seule caméra, c'est très difficile parce qu'il faut préparer tous les plans 12 semaines à l'avance. Deux caméras, je peux couper la graisse de film. Donc une caméra, c'est bien étudié. Donc on a vraiment l'impression que l'audience vient avec moi, on tourne mon dos, on tourne mes épaules. Et du coup, on prend cette audience normale, un gars comme moi normal. Un portier, c'est pas un gars qui va être président des États-Unis ou un avocat. Bon.
Enfin, un gars comme vous normal, qu'on s'entende quand même.
Ouais, attention, si j'aurais pas réussi dans le monde du cinéma, mon père m'a dit... T'étais taximène. T'as pas de diplôme, t'as rien. T'aurais fait, le centre de karaté. Donc un gars normal avec qui je peux m'identifier. Et puis j'ai une vie assez mouvementée et j'ai pris ces moments de ma vie. Et puis je me suis assis avec le directeur. On a discuté du script. Il m'a deviné, garçon sensible. On a commencé les 2-3 premiers jours avec des scènes très faciles à faire pour m'échauffer. Et puis on a commencé avec mon français. J'ai un complexe avec mon français de faire un problème. Et puis j'avais des acteurs formidables dans le film qui m'ont vraiment...
Samy Bouchida notamment.
Oui. Alors il me fait une scène de dialogue. Il commence, et en plein milieu, je sais pas ce qui se passe, il s'arrête, il vient chez moi, il prend mes épaules. Mais il vient comme ça, dit, j'ai fait une erreur. Alors ça m'a, tu sais, ça m'a... Alors il m'a mis vraiment en une bonne...
Bonne condition.
Ouais.
Vous faites partie de ces rares comédiens qu'on vient aussi chercher pour ce qu'ils sont. Vous avez beaucoup joué Jean-Claude Van Damme au cinéma. Est-ce que du coup vous avez la sensation que des fois JCVD est devenu un personnage?
Je sais pas, c'est dû je crois au social network. Mm-hmm. Moi je passe autant de temps avec un, si pas plus, avec un valet parking d'un studio. On s'assied sur... le bord de la rue, là, on parle un peu de tout. T'as une femme, t'as un enfant, combien tu gagnes par mois. Enfin, on parle, quoi. Et je crois que j'ai cette possibilité d'être... c'est même pas une possibilité. J'ai cette envie que quand je parle aux gens, je les connais depuis longtemps. Si je vais dans le Middle East et on me parle de leur religion, je respecte leur culture. J'étais en Israël il y a 3-4 jours, on me dit non, dairy product. Je dis, ok, on mange... Donc j'ai cette
vous adaptez.
À cause que j'ai quitté l'Europe à 16 ans. Et quand tu quittes à 16 ans, tu fais le tour du monde, tu rencontres des gens, mais tu fais des films. Donc tu restes 2-3 mois dans ce film. Tu as le temps d'apprendre les cultures, les langues, les mannerismes, les manières des gens. Que quand tu reviens, tu sais ce qui se passe et t'attrapes du respect. Et voilà.
Quel est le film qui vous a le plus donné l'impression de vous mettre à nu, au sens figuré? Parce que je sais que sinon, au sens propre, on vous voit souvent torse nu dans les films.
Oui, oui.
Mais là, on se dans ce studio, par exemple, en ce moment.
Non. Quand j'ai changé le film qui m'a donné... Est-ce qu'on retient cette question pour la fin?
D'accord, parce que je vous la repose à la fin.
Je peux la tenir et je la travaille dans le
je vous la repose à la fin.
Cortex gauche.
Alors Jean-Claude...
le dinosaure.
Le cerveau reptilien.
Hein,
le cerveau reptilien. Alors, on sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Hein. Ça a été encore le cas sur ce tournage. Par exemple, il y a cette longue scène de douche où vous n'hésitez pas à prendre une douche glacée pour éviter de mettre de la buée sur l'objectif. Ou encore pour les besoins d'une scène de boxe avec punching ball où vous boxez sans protection, sans gants, jusqu'à taper au point d'avoir les mains en sang. Le cinéma, c'est aussi un sport de combat d'une certaine manière.
Pas vraiment, mais quand on croit... Il y a des gens qui me demandent c'est quoi le film ? L'histoire du film, je la connais par cœur, mais comme je suis un caractère qui a été incrusté avec d'autres acteurs pour faire toutes ces pièces de puzzle, the actors, et le directeur, le metteur en scène fera le puzzle, il a bien compris le film. Donc je rentre dans un film comme un portier qui a une fille, qui a des problèmes, et je me rappelle pas de l'histoire vu que mon histoire était vivante. Alors quand, c'est quoi l'histoire? Je dis l'histoire de ma vie, mais c'est difficile à dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je travaille à Inter et tout, tu me connais. Donc c'est dur à expliquer un peu le film, mais je crois que j'ai joué mon caractère. Et grâce à un bon directeur qui m'a quand même guidé, qui a fait attention à toute image, tout close-ups, qui était très très demanding. Et au plus qu'on a un directeur comme ça, au plus dur ça va être... pour le prochain film.
Mais est-ce que physiquement, vous vous fixez des limites?
Quand j'entends le mot action, c'est ça le problème. Il m'a connu à l'âge de je ne sais quoi. Je ne connais pas son âge. Ouais, Leclerc, donc il avait le poster peut-être Bloodsport dans sa chambre. Et il a eu donc, je ne dirais pas le jouet, mais le jouet physique, mental, la personne. Et pour lui, je peux toujours faire le cumulé. Donc on a fait des scènes d'action qui étaient terribles. Et on ne s'est pas arrêté. On a fait un truc super. Heureusement que je me bats bien, parce que tu vois vraiment que c'est ma fille. Le principe du combat, c'est pas vraiment... C'est pour pouvoir subvenir aux besoins de ma fille,
Je vais reposer la question autrement. Vous avez déjà été doublé. Qu'est-ce que vous faites si on vous propose une doublure dans un
film? Quand il faut sauter d'un 10e étage ou courir en feu, il faut la doublure. Et alors, d'ailleurs, on ne mentionne pas assez les stuntmen, les cascadeurs. On a amené une équipe de cascadeurs français. Bon, j'étais leur idole dans un sens. Et tu sais, c'est dur si je fais un combat avec Stallone. Quand j'étais expendable, j'allais très doucement parce que bon, c'était mon idole et il a un certain âge.
Est fragile.
Il n'est pas fragile, c'est un costaud. Mais je veux dire qu'on a un certain respect du. Donc c'était pareil avec eux. Ils avaient peur de pousser. Et écoutez les gars, il faut pousser, il faut le faire bien. Donc ils ont pris confiance et j'ai accepté. J'ai dit, écoutez, premièrement, on n'est pas des combattants. On se frappe. Attendez, quand on recule, il faut voir le mur. Parce qu'on est. Il faut penser. faut bouger là-bas. Donc, on a bien répété tout en slow motion. Quand on fait un combat, il n'y a pas que le coup de poing. Il y a le coup de poing qui se fait, mais après le coup de poing, le gars est tombé. On regarde, il y a un autre. On prend sa respiration. Et puis, ça, c'est très important. Eh ben, ces stunt guys, ces cascadeurs, ont été avant tout des acteurs. Donc, ils savent, parfois, il y a des cascadeurs. Moi, je préfère, en tant que directeur, de prendre des bagarreurs qui sont cascadeurs-acteurs que des acteurs après qu'il faut doubler.
Ah, bien sûr.
C'est différent. Enfin, I love you actors, I love you stuntmen, mais si je ferais un combat comme ça...
Lucas, ce personnage de videur de boîte de nuit, c'est un rôle que vous avez dû jouer dans la vraie vie, à votre arrivée aux États-Unis pour gagner votre vie. Vous y avez pensé, j'imagine, en tournant Lucas? C'est la vie que vous auriez pu avoir, finalement.
Il y avait, mais tu as raison. Et puis, il y avait une essence un peu JCVD, tu vois. Le gars revient du pays, he's broken. Comme on dit, il a plus d'argent. Mais imagine, c'est un peu l'essence de JCVD, sans la banque. C'est un polar, c'est sec, c'est fort. La lumière accompagne l'histoire complètement. Tu sais, c'est là. Et je suis vraiment content que, de nouveau, je le dis à l'avance, grâce à la France, je viens ici. Et je repars peut-être avec un JCVD en Amérique, parce que là-bas, on ne me donne pas la chance de faire des films où je peux m'extérioriser, où des gens comme Julien peuvent prendre des chances. Mais je repars toujours à des films box-office, coup de poing sur la boum. Et voilà. Donc j'ai de la chance qu'en France, grâce à la nostalgie, il me donne donc cette chance.
Et grâce à de jeunes auteurs qui voient aussi en vous un personnage complexe qui ne se résume pas aux combattants qu'on a vus dans les films.
Voilà.
Puisque vous parlez d'Hollywood, vous êtes arrivé à Los Angeles à 22 ans et vous donnez l'impression depuis quand même d'avoir vécu 1000 vies, 1000 personnalités, 1000 carrières, de poseur de moquettes, si je ne m'abuse, à livreur de pizza, sportif primé, acteur au cinéma, en série. Quelle est votre période préférée? Vous disiez que vous étiez nostalgique. Voilà, je vous pose la question.
Là, ma période préférée, c'est quand j'ai commencé à réussir. J'en ai tellement bavé, j'ai fait des trucs incroyables. Et quand j'ai reçu ce premier film, Bloodsport, dans mes mains, et j'étais à Hong Kong, et j'habitais dans une voiture, figuration, une voiture avec une petite Sirocco, avec mon essuie-bain, avec deux, trois petits jeans. Et j'allais à la salle de sport, au Gold's Gym, à l'époque, à 3h, 4h, il fallait pas pointer. Donc j'avais ma douche le matin, le soir, le casting, c'était horrible. Et du coup, Bloodsport, on me met de la voiture dans un avion business class, je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, un petit thé, un petit morceau de poisson, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'atterris. Et pour les Chinois, eux, ils vont dans le computer Canon, $2 billion company. Du coup, je descends et je vois une Rolls-Royce. Je ne sais toujours pas ce qui se passe. Et on me dit, mettez-vous à l'arrière avec des gants blancs. Je suis en Rolls-Royce et j'arrive à Hong Kong et on me met sous le bateau et je traverse la baie. Et je dis, ça, c'est ma ville. Et maintenant, j'habite à Hong Kong. Mais c'était un truc incroyable, mon premier film. Alors, j'ai donné dans Bloodsport. Tu as vu, j'ai tout donné. J'ai donné ce qu'il fallait donner, quoi.
Jean-Claude, vous avez répondu à des milliers d'interviews au cours de votre carrière. Mais est-ce qu'il y a une question que Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui, aimerait poser à Jean-Claude Van Damme?
Oui. Avec les circonstances de ma vie, aurais-tu pu faire mieux? Parce que j'ai fait des conneries. Comme tout le monde le sait, tout le monde fait des conneries. Mais parfois, les conneries, ça ralentit. Ou parfois, les conneries, ça t'enseigne pour plus tard à avancer plus vite. Donc, je me demande parfois, parce que où je suis maintenant, avec les accidents que j'ai eus, les histoires, c'est un bouquin. Donc, je ne sais pas vraiment, c'est le destin. Mais en vérité, je ne regrette rien, je suis bien. Voilà. Mais j'aurais voulu passer plus de temps avec mes enfants. Mais je n'ai pas lâché la corde quand j'ai réussi. Donc
Bien. Jean-Claude, nous avons un point commun, en plus d'une anatomie absolument parfaite. Nous avons tous les deux doublé des personnages de dessins animés. Vous étiez Maître Croc dans Kung Fu Panda 2. Et moi, j'étais Stuart Little, la petite souris en basket. Et je rêve d'un mash-up entre Maître Croc et Stuart Little sur France Inter. On peut le tenter?
Vas-y.
Donc, je vous pose des questions en Stuart Little.
Alors, comment ça va, Maître Croc? Enchanté, moi je suis Stuart, Stuart Little. Dis-moi, c'est cool une vie de crocodile?
Écoute, on va s'arranger ensemble et j'ai pas beaucoup de dents. Alors maintenant, je parle beaucoup avec ma langue et j'ai un lisp. Je sais plus, moi j'ai des petites souris.
c'est plus sympa qu'une vie de souris en basket, alors?
Ah, je sais pas ce que tu veux dire, j'ai perdu mon IQ, j'ai reçu un coup de poing d'un lion.
Oh, ça doit faire mal, ça. Dis donc, tu conduis parce que moi j'ai un petit cabriolet téléguidé. Et toi, tu as une grosse voiture aussi?
Non, moi je marche avec mes chaussures.
Avec tes chaussures?
Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est quoi que t'as comme voiture? Et moi j'ai dit, non, j'utilise des chaussures. Il m'a dit, pourquoi? Et j'ai dit, j'ai promis à ma maman to be a good boy.
Et dis donc, Jean-Claude, si jamais on devait s'embrouiller et s'affronter sur un ring, là, tu penses que c'est qui gagnerait?
Celui-là qui court le plus vite.
C'est moi alors.
Eh ben, t'as raison.
Merci Jean-Claude.
Dis, est-ce que je peux aller de nouveau me baigner parce qu'il fait chaud en dehors?
Oui, bah oui, il fait chaud. Hein. Attends, parce qu'il y a Charline qui a une dernière question à te poser, celle à laquelle tu voulais pas répondre tout à l'heure, que même t'as réfléchi entre-temps.
La question solennelle? Allez, oui. Je la repose. Jean-Claude Van Damme, quel est le film qui vous a le plus donné l'impression de vous mettre à nu? Après le crocodile, ça fait bizarre. Hein.
Les femmes.
C'est pas un film, les femmes.
Comment ça, c'est pas un film?
Bah non.
Ah bon?
On est la réalité.
C'est pour de vrai dans la
non,
vie.
Non, ça c'est vrai. En plus, mais moi, quand je vois une femme, je me fais toujours un film.
Ah, non, bien, très bonne réponse,
mais
j'ai
les
rien
femmes
à dire.
Sont formidables. Mmh. On a une émission il n'y a pas longtemps, mais vraiment, dans mon travail, je m'entoure vraiment de femmes. Des femmes qui ont envie de travailler en dehors de leur ménage, mmh. Mais elles sont terribles. Mmh. Elles sont très fidèles.
Mmh. Bah voilà. Oui, moi avec vous, Antoine, vous avez vu, bah, je suis
ouais,
toujours
ouais,
là.
Ouais. Très maternelles et elles sont là à protéger toujours le gâteau.
Inutile de le rappeler, Charline, je l'espère. Dites-moi, Jean-Claude, vous qui savez tout faire, est-ce que vous savez faire ça?
Ouais.
Il sait le faire. Ah, j'aime beaucoup votre pote.
Attends, attends.
En fait, de moi. Ah oui, il est parfait.
Magnifique.
Parfait.
Et tu sais faire ça?
Non.
Le non. Cheval. Attends, attends. Le pigeon. Le hibou. On est bien, toi.
Ah, non, si on faisait un vrai film tous les deux.
Tu rigoles ou quoi? On fait un dessin animé, toi et moi, on casse la baraque.
Allez, deal.
Deal. Et on mettra, tu sais, ces trucs électroniques.
Ouais.
Et moi, je vais jouer.
La
toi,
motion
tu vas
capture,
jouer quoi?
Vous voulez faire un film d'animation en motion capture?
Voilà, c'est d'accord. Ça. Il faut trouver l'animal.
D'accord.
Oh, j'ai des idées.
Oh, ah ouais, bah, vas-y, oui, à toi oui, la parole. Oui,
Charline,
donc,
vous ferez la voix off, tiens, ça vous
commençons,
apprendra.
Bon. Commençons par ton patron. Enfin.
Un opossum.
Un opossum.
Voilà.
Ah voilà, vous voyez comme ça, vous. Un opossum.
Non, moi, non, mais je te vois là. Plutôt pour. Non, les beaux yeux.
Un quoi?
Je dirais plutôt
si à moi.
Un lion malin.
Un lion malin.
Malin. Ouais. Et toi, tu jouerais pour moi un dauphin.
Ah ben bah voilà. Ça
alors,
vous
trouvez une histoire avec un lion malin, un dauphin,
et
vous, Jean-Claude, alors?
Un patapouf.
Un patapouf. Sacré JCVD. Ce film est encore en cours de préparation, mais nous cherchons toujours un producteur. Bref, ce pop-pop-pop à gros lot continue. Et juste avant de réécouter l'interview et le live de Boomcello sur la scène de pop-pop-pop, écoutons pas la peine un morceau de Vaudougaine.
Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de manger. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de goûter. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de sentir. Ce n'est pas la peine. Pas la peine d'acheter. Ce n'est pas la
Vaudougame, pas la peine, cet extrait de l'album Autodi.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Bonjour Vincent Segal.
Bonjour.
Et Cyril Atef.
Bonjour.
Bonjour messieurs. Bombshello donc. Et aujourd'hui vous venez nous présenter Monster Talk, votre huitième album. Alors ici, vous le savez, nous aimons l'exactitude. On sait que cello, ça signifie violoncelle, instrument avec lequel vous excellez, Vincent. Oui, ok, mais bum, c'est pourquoi?
Bum, ça veut dire fesses.
C'est fesses?
Ah oui, des belles fesses.
Des belles fesses, vagabond aussi peut-être.
Vagabond aussi, vagabond céleste.
Mais alors, comme vous êtes percussionniste, pourquoi pas drum cello?
Parce qu'au début, ça devait être drum and cello quand on a commencé le groupe en 99 au Citer. C'est de la mode du drum and bass. Donc, drum and cello, bon, c'est un peu bateau. Allez, bum cello, ça bum sonne bien.
Okay. D'accord, une fesse et un violoncelle, donc. Alors, juste avant de commencer, précisons pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris que vous n'êtes pas tout à fait un groupe comme les autres. D'abord, vous êtes deux, comme Stone et Charben, mais surtout, vous ne faites rien comme tout le monde. Par exemple, vous enregistrez un album, mais ce n'est pas pour autant que c'est ce que vous jouerez en concert.
Exactement.
C'est étonnant, non?
Oui, on sait même pas ce qu'on va jouer.
Oui, c'est ça, le principe qu'on avait donné depuis le début comme dogme et qui nous a toujours plu, c'est de jamais... On a fait un seul concert dans notre vie, on a rejoué les morceaux de Bombshello avec des amis, les invités. Mais le principe de base, c'est jamais mettre d'ordre, jamais de chansons. Par contre, les chansons apparaissent des fois. C'est-à-dire que de temps en temps, j'entends Cyril commencer une chanson et là, je peux le suivre ou pas. C'est-à-dire je peux dire, oh, je vais faire un remix direct. D'ailleurs, un festival, une fois en live, un gros festival, ça nous arrivait des fois sur des grosses scènes, on entend l'autre groupe jouer à côté. Et si tu te souviens, Sayan Supakru, un groupe comme ça qui jouait il y a longtemps.
On a enchaîné.
Et comme Cyril avait déjà fait des studios pour eux et tout, et comme on jouait en même temps, on les entendait tellement fort qu'on a dit aux gens, ben, on va improviser des remixes en direct de Sayan Supakru parce que ça servait à rien d'essayer de jouer une autre musique. Donc là, on a complété ce qu'il jouait, en fait. C'était super drôle comme concert.
Oui, il ne le savait pas.
Oui.
Mais ce principe d'impro que vous appliquez sur scène, c'est pour ne pas vous ennuyer, vous, quand vous êtes sur scène, ou c'est par souci du public et de surprise?
Non, parce qu'on adore improviser. Mais moi, j'adore jouer avec des groupes où il y a des morceaux écrits, tout ça. Oui. Mais...
C'est par paresse.
Ouais, on est des feignasses, ouais.
Non, mais il y a aussi le fait d'avoir eu beaucoup de... Je détestais en tournée, par exemple avec Mathieu, ce qui me plaisait vraiment avec Mathieu, c'est quand on était à trois. Pardon, Mathieu, il était hyper ouvert sur ça. C'est-à-dire qu'on montait, il avait des listes de chansons, mais ça partait. C'est-à-dire qu'à un moment d'une chanson, on pouvait faire une diversion de 10 minutes et tout le monde était content et le public était content aussi. Et en fait, j'ai trop vu des groupes faire des tournées et jouer exactement la même setlist. On les voyait préparer, ranger le matériel, ils avaient fini, on savait que c'était fini, les rappels étaient déjà préparés et tout. Et mon idée justement du rock comme j'aimais, c'était par rapport à la musique classique, c'était cette folie que je sentais sur scène, c'était pas l'idée des morceaux, c'était qu'est-ce qui se passait quand même dans la transe. Et même des groupes qui faisaient des morceaux de 3 minutes, c'est la façon dont ils les faisaient, on sentait que c'était pas une liste, il y avait une énergie.
Alors vous parlez de M, mais Bombshello, en 20 ans, vous avez collaboré avec M, comme vous le disiez à l'instant, mais aussi avec Ben Harper, Vanessa Paradis, Cesaria Evora, chez Mamie et bien d'autres. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre 8e album, je le rappelle, il s'intitule Monster Talk. Pourquoi Monster Talk? Comment le traduire? Conversation de monstres?
Ouais, conversation de monstres, j'ai pensé à ce
attendez,
morceau.
Attendez. Vous voulez vraiment avoir une conversation avec un monstre?
C'est des monstres pour
non,
les enfants,
en fait,
là.
En fait, ce que j'ai pensé quand j'ai trouvé ce titre, c'était notre époque, là, où on est tous sur les smartphones et les réseaux sociaux. Je voyais des millions et des milliards de monstres en train de tweeter, en train de lâcher des
petites phrases. Ce que vous appelez l'ogre numérique.
Voilà, voilà. Et voilà, le darknet ou tout le net, quoi. C'est des petits monstres quoi qui s'invectivent aussi beaucoup. Donc pour moi c'est comme des grands des petits monstres. On vit dans une époque un peu spéciale quoi.
Et ce ne sont pas les seuls monstres auxquels vous faites référence, sauf erreur de ma part. Il est aussi question du président Orange, de l'Europe qui part un peu en miettes. Est-ce que c'est un album qui est un peu plus sombre que les précédents?
C'est pas fait exprès, mais bon, c'est sorti comme ça, hein.
Après sur Monster Talk, c'est l'histoire de ce grand nuage numérique aussi. C'est comme un langage de 1 et 0. C'est pour ça que sur la pochette, on a mis des 1 et des... Enfin, je trouve ça assez drôle que tout soit résumé à 1 et 0. Et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, des horreurs ou des choses super belles, ça passe par ça pour tout le monde maintenant.
Monster Talk, c'est votre huitième album, Bombshello. C'est un groupe qui a été créé il y a 20 ans, en 99, à l'époque où Céline Dion cartonne avec Pour que tu m'aimes encore, Elton John avec Can You Feel the Love Tonight, et Ophelai avec ça. Est-ce que c'est pour compenser ces naufrages musicaux que vous avez eu envie de créer Bombshello?
Non, non, c'était pas en opposition, mais... Oh, tu m'as cassé la vibe, là.
En fait, Cyril, il a une part la très clubmed en même temps. C'est ça que j'aime bien aussi.
Hein?
Toi, t'aimes bien aussi les trucs dance comme ça.
Ah oui, moi, je suis un danseur, moi.
Mais
un
justement, danseur, mais... vous écoutiez quoi, vous, à cette période-là? Parce que j'imagine pas ce qu'on vient d'entendre, mais...
En 99, ouais. Qu'est-ce qu'on écoutait Pas mal de hip-hop.
Ah, moi, je sais ce que j'écoutais.
C'était encore l'époque un peu drum and bass, musique électronique, dub. Il y avait aussi toute cette scène de jeunes groupes français dub. Des super jazzman aussi.
Moi, j'écoutais Wu-Tang.
Ouais, voilà, Wu-Tang Clan. Ouais.
C'était la période de Bobito et c'était des DJ de New York qui faisaient des lives en hip-hop qui étaient remarquables. Il y avait ça et puis... Voilà, l'invention d'une musique que j'ai toujours aimée, qui est le trip-hop, vraiment.
Ouais.
Que j'aime toujours.
Décrire Monster Talk, c'est pour vous, je vous cite, aussi illusoire que raconter un rêve agité. Alors, comme disent les psys, le raconter, ça mange pas de pain, c'est l'interpréter qui est coton. Qu'est-ce que vous en dites de ce rêve agité, vous?
Déjà, l'agitation aussi sur cet album, elle est venue de Vincent Torel, qui est de la nouvelle génération, et qui a enregistré ce qu'on faisait. Et en fait, ce rêve agité, c'est-à-dire... L'idée, c'est à chaque fois qu'on enregistre, on a eu des écueils. Des fois, c'était de pas improviser comme on voulait, puisqu'on était obligé de faire un album et de faire des chansons. Et là, cette fois-ci, on a réussi vraiment à se laisser aller tous les deux. C'est la première fois où on s'est pas engueulé en studio du tout. Et parce qu'il y avait Vincent Torel, qui est de cette nouvelle génération un peu, et qui arrivait à s'occuper du boulot de production. Et c'était très agréable.
Parce qu'un médiateur, quoi.
Et du coup, c'est un album où effectivement. Il y a des choses qui se passent dans les notes que j'entends qui sont vraiment de l'ordre de l'imperceptible et c'est très agréable. C'est pas calculé, c'est pas...
Bombshello s'est installé sur la scène mythique de Pop 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 pour nous jouer en live le morceau Everyday. Messieurs, vous êtes prêts? Après mon pop, ce sera juste à vous. Attention. 1, 2, 3. C'est parti.
Everyday I go to work, 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 every day I get work done, every day now I get work done.
Turn on the light. Show me some life. Turn on.
C'était Everyday, un morceau de Boomchello joué en live sur la scène grandiose de Pop Pop Pop. Voilà, merci Boomchello. Je rappelle que l'album Monster Talk est toujours disponible. Et merci Jean-Claude Van Damme, le DVD de Lucas sort après-demain. Merci à vous tous et rendez-vous demain pour réécouter un Pop 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 avec lui.
Vous voyez l'automobile derrière moi?
Oui.
Ça fait un petit moment que je l'observe.
Eh bien?
Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Et lui? Jean Dujardin et Miles Kane demain dans Pop Pop Pop. Merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop Pop, Sonia Leglen à la réalisation, à la technique Guillaume Roux, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Cruel, notre stagiaire. Let it out, let it out.